I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1, 2, sun check.
Méthode paranoïa critique, 2 points.
Paranoïaque, c'est le maximum du délire, et critique, qui veut dire le maximum de raisonnement.
Vincent Malone.
Pierre-Étienne Michelin. Le bonhomme Michelin.
Pierre-Étienne Michelin, bonjour.
Bien, bonjour, Vincent. Je suis revenu avec un sujet passionnant qui s'appelle la sécuritopathie.
Oui.
C'est l'extrême inverse de la paranoïa. Et en fait, c'est l'analyse permanente de l'hostilité qui t'entoure. La sécuritopathie, je suis sécuritopathe.
Sécuritopathe.
C'est l'analyse permanente de l'hostilité qui peut t'entourer. C'est comme en aviation, c'est comme dans les avions. C'est
d'accord.
Toujours te mettre en situation de sécurité. Alors, c'est beaucoup plus précis et nanotechnique que la prudence. La prudence, c'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus...
Sécuritopathe, ça s'intéresse vraiment à tous les détails qui font la sécurité.
Exactement.
Comme ce qu'on a vu pour les avions.
Oui.
Sauf qu'on n'a pas appelé ça sécuritopathe.
Non, on a appelé ça sécurité.
Oui.
Par exemple, je te prends un exemple. On est dans un système qui... L'éducation de nos enfants, qui est extrêmement large et on leur bourre la tête de connaissances. Mais on ne leur apprend rien de la sécurité. Pourquoi les cours de secourisme, savoir sortir d'une bagnole qui est tombée dans l'eau, savoir éteindre un...
Non mais... Le premier truc qui vient en tête, c'est sortir d'une bagnole
par exemple,
tombée...
Non, mais attends, pourquoi
qui
pourquoi...
tombe dans voiture dans l'eau?
Mais parce que ça peut t'arriver. Il y a plein de gens qui meurent bêtement parce qu'ils veulent sortir tout de suite. Et quand tu ouvres une voiture qui est en train de se remplir, tu te fais plaquer sur ton siège bêtement alors qu'il faut attendre que la voiture se remplisse tranquillement, calmement. Tu prends une grande bouffée d'air et là, tu ouvres la porte.
Mais tu as quand même quelque chose avec l'eau qui est remplie. Tu m'as déjà,
avec
l'avion, dit qu'il fallait pas que je gonfle mon gilet avant de sortir. Sinon, je risquais d'être collé au plafond de l'avion. Ce qui n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu d'avion qui ont coulé.
Mais bien sûr que si, il y en a plein.
Avec des gens dedans?
Bien sûr. Bien sûr, il y a un Boeing 747 qui a été détourné par des pirates qui étaient complètement bêtes et stupides, qui ont voulu le détourner et à un moment donné, il avait plus de carburant. Donc il était obligé de se poser très proche de, je crois que c'est Madagascar ou La Réunion, et il s'est posé sur la plage. Il y a une vidéo d'ailleurs de cet avion, et il a amerri tout proche d'une plage. Heureusement, les pilotes ont été super prévoyants. Et oui, il y a plein de gens qui...
sont restés collés au plafond.
Qui ont gonflé leur gilet dans la panique, dans l'avion, et qui sont morts noyés, malheureusement.
Bon, revenons à cette éducation. Alors...
Oui, alors voilà. Pourquoi, à un moment donné, on n'apprend pas à nos enfants obligatoirement à sauver des vies? Emlich, par exemple. Quand tu t'étouffes.
Emlich.
Ce qu'il faut faire quand t'as un truc coincé dans la gorge, tu prends la personne, tu lui fous les dos. Les gens, bêtement, tapent dans le dos.
Il faut pas.
Tu soulèves le plexus avec les deux mains, tu serres la personne. Même si tu lui pètes les côtes, c'est pas grave.
Oui.
Et tu le plies en deux. Et tu... Eh bien, ça, tu vois, tu connais pas. Putain, c'est incroyable.
Si j'ai vu ça dans Un jour sans fin...
Et voilà. Et pourquoi on n'apprend pas ça à nos jeunes? Et pourquoi on n'apprend pas à éteindre une friteuse qui prend feu? Hein? Pourquoi on n'apprend pas juste à prendre un torchon et le mettre dessus, calmement? C'est parce que les trois quarts des gens, dès qu'une friteuse prend feu, ils jettent de l'eau. Mmh. Et d'où l'expression « mettre de l'huile sur le feu ».
Non.
Non, de mettre de l'eau sur de l'huile.
Non, il n'y a pas d'expression, donc. D'où l'expression « il n'y a pas d'expression ».
Ouais, c'est ça.
La fameuse.
Et ben du coup, je trouve aberrant qu'on ne forme pas les gens à faire les choses correctement. Par exemple, je sais pas, avoir le bon réflexe au moment où il y a un pet de jeu.
au moment où ça dérape, au moment où ta vie est en danger, ta sécurité est altérée.
Ta sécurité est altérée.
Donc tu te demandes pourquoi on n'apprend pas ça à l'école.
On n'apprend pas ça à l'école, et par exemple, au CP, on devrait apprendre aux enfants à juste savoir appeler les secours. Le 17, le 18, le 112, un enfant devrait, à l'âge de 5 ans, peut parfaitement apprendre à appeler les secours. Beaucoup d'enfants ne le font pas. Par exemple, est-ce que tu sais, et ça m'énerve à chaque fois que je vois ça dans une série, qu'une voiture ne peut pas exploser. Une voiture n'explose pas. Il y a plein de gens qui ne vont pas sortir des gens d'une voiture en feu parce qu'ils pensent qu'elle va exploser. Parce qu'ils ont vu ça dans tous les films d'action. C'est faux. Une voiture n'explose pas. Elle prend très vite feu dès que le réservoir est chauffé au rouge et que du coup, il y a forcément une combustion et que le carburant s'enflamme. Mais ça n'explose pas. Mais ça n'explose pas. D'accord ? Donc, une voiture qui est en feu, on a le temps de sortir les gens tranquillement.
Oui. Avant qu'ils flambent, quand même.
Par exemple, est-ce que tu sais que quand tu composes un numéro d'urgence, tu peux ne pas avoir de réseau ? Eh ben, c'est pas grave. À partir du moment où tu fais le 112, tu fais le 18, ton réseau passe immédiatement sur le réseau militaire, dans lequel il n'y a pas un centimètre carré sur Terre qui n'est pas couvert. Donc, même si tu n'as pas de carte SIM dans un téléphone, tu peux appeler les secours. Il y a plein de gens qui disent tout le temps, t'as un mec qui fait une crise cardiaque dans une pharmacie, et puis là...
Ah ben, j'ai pas de réseau, je peux pas appeler les pompiers. Eh non, mon gars, tu fais le 18, tu fais le 112, tu fais le 17, ça passe directement et immédiatement sur le réseau militaire.
Quand il n'y a pas de réseau du tout, il n'y a pas de G, 0G, ça ne met même pas un E, ça ne met pas de réseau.
Tu n'as même pas de carte SIM dans ton téléphone, tu peux faire un numéro d'urgence. Dès que tu fais un numéro d'urgence, ton téléphone passe sur le réseau militaire.
Même sans carte SIM.
Même sans carte SIM.
Faut quand même qu'il y ait de la batterie.
Alors non, même ça, personne ne le sait. C'est que dès que tu fais un numéro d'urgence, s'il te reste 0,5% de batterie, dès que tu fais un numéro d'urgence, ton téléphone se met en sécurité. Et stagne la batterie pour que tu aies le temps d'appeler les secours.
Donc il reste quand même un peu de batterie.
Il reste toujours un peu de batterie pour un appel d'urgence, absolument. Et, par exemple, alors autre chose, c'est quand même aberrant que depuis 2015, qu'on commence à imaginer des solutions pour que dès que tu passes un appel d'urgence, ton appel soit géolocalisé. D'accord ? Parce que beaucoup d'appels d'urgence, t'appelles, t'es dans la pampa, tu sais pas où t'es.
Dans la pampa.
Ouais, t'es dans la pampa.
Ouais.
T'es dans la pampa.
Ouais.
Et du coup, tu ne sais pas où t'es. Eh bien, l'opératrice devrait immédiatement savoir, devant son écran, géolocaliser ton appel.
Oui.
En fixe, c'est facile, ça devrait être facile. Et avec un portable, aujourd'hui, ça devrait être facile. Eh ouais. Ben, ça n'existe toujours pas. Tu trouves pas ça aberrant ? Tu trouves pas ça quand même scandaleux ? Tu trouves pas ça aberrant ? Tu trouves pas ça ? Tu trouves pas ça ? Tu trouves pas ça quand même scandaleux ?
Tu veux dire qu'ils le savent pas même avec ton machin militaire ?
Non,
là
aujourd'hui il faut encore pour te géolocaliser quand tu passes un appel d'urgence. Alors il y a une caserne, il y a un pompier breton qui a inventé une application qui t'envoie un SMS. Et il faut que tu cliques sur le lien. C'est-à-dire que, imagine que t'es à moitié dans le coma, tu viens de te cracher, en bagnole ou en patin à roulette, ou en AVC, et il faut quand même que t'aies la lucidité de cliquer sur le lien pour que le mec te géolocalise et vienne te chercher. Merde !
Mais ça existe, la géolocalisation ?
En appel d'urgence immédiatement ?
Non, mais la police, elle te trouve comme ça, facilement, par exemple ?
Beaucoup trop... Ça prend encore beaucoup trop de temps. Alors que ça devrait être immédiat depuis au moins 10 ans.
Mais c'est en France que ça marche pas ou c'est partout ?
Les États-Unis sont un peu plus avancés, parce que les Américains sont un peu plus parano que nous. Mais c'est un peu plus avancé, mais non, en France, c'est encore latent. Il y a encore des progrès à faire énormément dans ce domaine.
C'est latent chez les peuples latins.
Exactement.
«
plutôt qu'on parle de...
Sécuritopathie, l'analyse permanente de l'hostilité qui t'entoure.
Mais l'hostilité des objets, pas des gens.
De tout. Là, je suis dans un bâtiment récent. Je ne sais pas si l'architecte a bien tout prévu. Et s'il y a un défaut de fabrication, et là, si d'un coup, on s'écroule ou il y a un tremblement de terre, qu'est-ce que tu fais en premier? Est-ce que tu sais que dès que l'intérieur...
Je me mets sous la table.
Exactement. Personne ne l'apprend aux enfants. Tout le monde le dit avec des reportages, avec des images vidéo au Japon, par exemple. Ils sont beaucoup plus avancés dans la sécurité.
Et dans les problèmes aussi.
Dans les problèmes, bien sûr. Oui, mais du coup, ils apprennent. Ils travaillent pour se protéger, pour... Maintenant, tout le monde sait que quand la mer se retire, il va y avoir un tsunami. Bon, ben maintenant, tout le monde, les signes précurseurs d'une catastrophe, maintenant, l'homme, en permanence, apprend à anticiper les problèmes.
Quand la mer se retire, c'est trop tard, quand même, en général.
Non, t'as peut-être le temps de monter au troisième étage de ton hôtel pour te protéger de ton tsunami. Mais alors, par exemple, un truc, encore, il boit.
Et alors? J'ai le droit de boire.
Absolument, d'ailleurs.
Oui. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu as vérifié avant de boire que la bouteille était bien fermée, par exemple?
Non, elle était fermée, puisqu'il y a le petit...
Ah, t'as eu le petit
bouchon, bien sûr.
Et s'il n'y avait pas le petit clic?
Je ne l'aurais pas vu.
Tu ne l'aurais pas vu. Mais tu vérifies ça, par exemple, toi, tout le temps?
Non, mais mon cerveau, instinctivement, a un petit réflexe de sécuritopathie. Genre, il y en a... Bon, s'il n'y a pas la petite bague, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui a mis un poison dedans.
Ouais, bon.
C'est pas de la paranoïa, c'est de la sécuritopathie, vraiment.
Oui, bien sûr.
Tu voulais dire quelque chose?
Oui, alors aujourd'hui, on est dans un système, on normalise, on met des normes. Oui. Ça, c'est aberrant pour la sécurité. Il faut que tout soit aux normes, les jouets d'enfants, les allume-cigares, faut que tout soit normalisé. Mais... pourquoi, par exemple, on n'a pas obligé les gens à mettre un petit extincteur dans sa voiture? Tu vois, ça devrait être obligatoire.
Oui.
T'es pas obligé d'en acheter un. Non. Tu y a que quand t'es sécuritopathe que tu vas en mettre un dans ta bagnole. Moi, j'ai 4 voitures, donc j'en mets un.
T'as un extincteur dans ta voiture?
Imagine tous les départs de feu qu'on pourrait empêcher. Tu fais un barbecue avec tes potes, paf, il y a un coup de vent, paf, ton pain méditerranéen prend feu immédiatement, hop, tout le monde court à sa bagnole. Si tout le monde avait un petit extincteur dans sa bagnole, tout le monde courra à sa bagnole, paf, prendre son petit extincteur et paf, t'empêches le départ de feu, c'est génial. Paf, tu fais un barbecue avec tes potes, paf, 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 il y a un coup de vent, paf, 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 tout le monde courra à sa bagnole, paf, paf, extincteur et paf, paf.
Au bout d'un certain temps, ils marchent plus, tes extincteurs, faut les changer souvent.
Non, ça c'est un système, c'est comme les pacemakers. En France, les piles de pacemakers, elles sont aux normes, il faut les changer tous les 10 ans. Moi, j'ai un pote cardiologue brésilien qui vient chercher des piles, parce que en fait, elles tiennent 20 ans. C'est pour que t'en rachètes. Alors que tu poses une pile de pacemaker qu'à 10 ans, elle peut faire vivre encore quelqu'un pendant 10 ans, si tu la poses dans un autre pacemaker. C'est quand même incroyable, parce que c'est des normes.
Ça m'embêterait qu'on... pose une vieille pile quand même, tant qu'à faire. Comment mettre une neuve, quoi.
Mais quand t'as pas de thunes dans un pays où t'as pas de sécurité sociale et que t'as un mec à une pile qui peut te faire vivre encore 10 ans, je peux te dire que tu la prends.
Mais pourquoi on est sur les piles de pacemaker?
C'est pour te dire l'obsolescence des extincteurs. Quand tu dis qu'ils sont un extincteur qui est soi-disant périmé, la date de péremption est passée, il marche encore. C'est comme le réseau GPS des portables. À un moment, tu vas pas dire...
Ah ben non, je peux pas éteindre le feu. La date est dépassée.
Bien sûr que si, évidemment.
Et dans ta voiture, t'as d'autres choses que ça?
Alors, ce qui devrait être obligatoire aussi, c'est sur la ceinture, le découpeur de ceinture. Le coupe-ceinture. Alors, ça se vend sur Internet, par exemple. Ça n'est pas obligatoire.
C'est quoi un coupe-ceinture?
C'est par exemple, quand t'as un choc et que ta ceinture est coincée, que t'arrives pas à sortir de ta bagnole... Parce que
c'est coincé.
Parce que c'est coincé.
Oui.
Le petit découpe ceinture.
Quoi, c'est un rasoir, quoi.
Oui, c'est une sorte de rasoir. C'est un truc. T'appuies sur un bouton et hop, ça coupe la ceinture. C'est génial. Et ça devrait être obligatoire, non? Tu te trompes pas?
Je sais pas. J'ai jamais été coincé dans un truc avec ma voiture.
Mais personne n'a jamais été coincé dans une voiture parce que le jour où ça t'arrive.
Oui.
Tu te dis merde. J'aurais dû savoir que c'est comme quand ta bagnole tombe dans l'eau, c'est comme quand ta maison prend feu. Quand t'es devant une situation d'urgence extrême et absolue, il faut savoir quoi faire, avoir les bons réflexes. Et c'est ça qu'on n'apprend pas à nos enfants. On leur apprend à faire des équations à 4 inconnus, alors qu'ils ont beaucoup plus de chances d'avoir des gestes de premier secours à faire dans leur vie ou de se sortir d'une situation compliquée que de se servir d'une équation à quatre inconnues. Alors, la sécurité devrait être une matière au collège, à l'école, à tout âge. Ça devrait être une matière à part entière.
Savoir faire Emlich, savoir quoi faire dans un avion quand tu prends l'avion, savoir comment te protéger dans un TGV qui déraille.
Comment on se protège dans un TGV qui déraille ?
Alors, il y a des places à connaître. Alors, les places à connaître, c'est déjà ne jamais être dans le sens de la marche, dans un carré. Les TGV sont étudiés pour, par exemple, absorber la force de choc entre les wagons. Donc, dans les wagons sont protégés. Il y a des dents, des énormes trucs entre les wagons qui s'enchevêtrent comme ça pour que les wagons se soulèvent entre les wagons. D'accord ? Il faut jamais être dans un TGV entre deux voitures au moment où il y a un impact.
On est rarement entre deux voitures.
Bah si, quand tu vas pisser, si t'es dans les chiottes au moment du choc, par exemple.
C'est entre deux voitures les chiottes ? Non, c'est dans une voiture.
Non, c'est dans la zone de...
Ah, de pas bonne. T'es dans le caca vraiment, quoi.
Ouais, exactement. Et par exemple, si t'es dans le sens de la marche avec la tablette qui est devant là, dans un carré... En cas de choc, tu te prends tout juste en dessous des côtes.
Mais là, c'est le coup d'Emlich. Si t'as avalé un truc pas bien au même moment, c'est juste ce qu'il faut faire, quoi.
Ouais, mais t'es dans la merde beaucoup plus
pour
autour
tout le reste.
Pour tout le reste. Quand t'es sécuritopathe, par exemple, dans un avion, tu te mets toujours dans la queue, dans l'extrême arrière du fuselage. Attention dans certains modèles, pas dans les avions où les moteurs sont dans la queue. Par exemple, les Embraer. Faut savoir que tout le kérosène, il passe des ailes à l'arrière. Donc, si t'es dans la zone,
T'es dans la zone kérosène.
Ouais. C'est pas bon. Par contre.
Ça explose un avion ou pas, alors, du coup?
Quand les réservoirs sont touchés, ouais, ça explose. Imagine-toi que c'est 1000 fois un réservoir de Twingo.
Moi, j'imagine pas.
Dans un Boeing ou un Airbus, si tu te mets dans la queue, la partie arrière du fuselage est la plus fragile. Donc, généralement, un avion qui va faire un atterrissage forcé avec la queue qui va toucher en premier, la queue va se détacher de l'avion. C'est la plus fragile. Donc, c'est là où t'as le plus de chances de t'en sortir. C'est là où t'as le plus de chances de survivre. Statistiquement, c'est dans la queue de l'appareil qu'il y a des survivants.
Oui, statistiquement, c'est dans la queue. C'est dans la queue de l'appareil. Statistiquement, c'est dans la queue qu'il y a des survivants.
Est-ce qu'on peut revenir au TGV parce que tes avions, là,
alors,
on peut
plus. Oui. Alors, revenons au TGV. Oui, tu te mets voiture 5 dans les duplex, hein, je parle, hein, attention. Chaque voiture qui a un carré d'eau à la marche à l'extrême bout de la salle basse. Personne ne le dit, mais personne ne le sait. Mais il faut savoir que dans la voiture 5, les deux carrés qui sont en salle basse, au bout, sont réservés en général pour les... ou des cheminots qui prennent le train, qui n'ont pas pris leur billet, au bon gré des contrôleurs, en fait. Donc généralement, ils ne sont pas occupés. Donc tu peux toujours te placer là, dans un TGV qui est blindé, par exemple, qui est complet.
Alors on a parlé d'éducation, on a parlé des enfants, de ce qu'il fallait leur apprendre en matière de sécurité, et là, Pierre-Étienne Michelin force mais de vous rappeler qu'on leur donne déjà plein de consignes de sécurité aux enfants à ne pas traverser au feu rouge, à pas accepter les bonbons.
C'est pas assez. On leur bourre le crâne de connaissances de catastrophes, de connaissances sur la Deuxième Guerre mondiale, sur les pires atrocités.
Sur les armes de destruction massive.
Sur un milliard de choses, et on ne leur apprend pas à se sortir d'une situation imminemment dangereuse.
Et pourquoi ?
Eh ben, parce que la société, encore aujourd'hui, n'est pas suffisamment sécuritopathe. On ne protège pas au bon endroit. Sur l'hygiène, par exemple. Les allergies... On sait qu'aujourd'hui, tout ce qui est allergique est du fait que on se lave trop et que nos défenses immunitaires ne sont pas assez exposées à des bactéries, à des problèmes. Non pas qu'on se lave trop, on se lave évidemment beaucoup plus qu'il y a 100 ans ou alors encore plus de 200 ans, voire 1000 fois plus qu'il y a 2000 ans. Donc tu fais le ratio. Effectivement, par exemple, en général, alors je vais dire un truc horrible, mais les nécrophages, les, comment on appelle ça, les mecs qui mangent leur crotte de nez. Je cherche le terme,
mangeur de crotte de nez. Non, le nécrophage, c'est celui qui bouffe. Alors, les mangeurs de crotte de nez, ça s'appelle.
à mucophagie.
Ah, voilà, voilà, la mucophagie.
La mucophagie.
La mucophagie.
Tu manges tes crottes de nez, toi?
Alors, oui, bon. Oui, depuis tout petit, mais comme énormément de gens.
Oui.
Surtout, bah, regarde...
Moins de filles que de garçons, quand même.
À chaque... Bah, tu rigoles, attends...
Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même plus
dans
garçon.
Dans ma famille, je crois que toutes les filles dans ma famille, enfin, pas ma femme et mes enfants, mais je crois que ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère mangeait de la crotte de nez.
Alors?
Et alors, quand tu es mucophage, il faut savoir que toutes les bactéries que tu respires, tu les inhales. Par contre, quand tu les manges, elles vont dans ton système gastrique, donc dans ton sang. Et du coup, tes défenses immunitaires vont fabriquer des anticorps pour combattre toutes les... Donc, en général, les mucophages, les gens qui mangent leur crotte de nez, sont beaucoup plus immunisés contre les bactéries dangereuses que les gens qui ne mangent pas leur crotte de nez. C'est bio, hein. C'est bio, c'est le principe du bio.
Comment c'est le principe du bio?
Bah, c'est le principe du bio que de laisser la nature combattre ses propres hostilités. La nature, c'est un système sécuritopathe en permanence. La nature apprend de ses erreurs. Alors ça, c'est pas de moi, hein. C'est encore mon fameux biologiste neuroscientifique Idriss Aberkane qui dit effectivement que la nature fait des erreurs. Et du coup, renaît à chaque fois de ses cendres, à chaque fois, la nature prend le dessus. Et l'humain ne s'inspire pas assez de la nature.
T'as un pote à côté de toi qui se coince le doigt dans le haillon du camion et son doigt tombe.
Tu prends son doigt, tu le mets dans de la glace si t'en as.
Non,
pas dans de la glace.
Tu la mets
dans la glace, mais pas au contact. Et tu fonces à l'hôpital le plus proche.
Et s'il y a un gros saignement, savoir faire un garrot ou un point de compression. Éventuellement, si c'est une plaie.
Mais tu vois, on parle de trucs, putain, on n'en est même pas sûr, mais ça devrait être une science enseignée.
Bon, mais Pierre-Étienne, merci.
Avec plaisir.
Salut.
Salut.
C'était une émission du Poste Général.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.